الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإخوتي الكرام، ما زلنا مع قراءة شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ الدكتور سليمان ابن عبد الله القصير حفظه الله تعالى. وقد وقفنا فيما مضى عند كتاب الجنائز، وقد انتهينا مع كتاب الصلاة بحمد الله تبارك وتعالى، فاليوم ننتقل إلى كتاب الجنائز. نعم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. يقول: الجنائز جمع جنازة أو جنازة، تقول جنازة بالكسر، ويجوز الفتح، الجنازة بفتح الجيم أو الجنازة بكسر الجيم، كما في القاموس المحيط، وهي اسم للميت وكذلك اسم للنعش عليه ميت، فيقال جنازة أو جنازة، ويراد به الميت أو النعش الذي عليه ميت. وذكر كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه. لماذا يذكر هذا الكتاب بعد كتاب الصلاة مباشرة؟ يقول: لأن أهم ما يفعل بالميت ماذا؟ الصلاة عليه. طيب. Donc, on a terminé la semaine dernière le chapitre concernant la prière. Nous débutons aujourd'hui le chapitre suivant, qui est le chapitre concernant al-janaiz. Donc, al-janaiz, c'est un terme. Déjà, c'est un pluriel dont le singulier est jinaza ou janaza. Donc, la plupart ou certains ulama disent qu'il est permis de dire jinaza et de dire janaza, et qu'il n'y a pas de différence entre les deux, et que les deux désignent soit le mort lui-même, janaza, soit le mort lui-même, ou soit le lit ou le brancard sur lequel on porte le mort. D'accord? Donc la chose sur laquelle on va poser le mort pour pouvoir le porter jusqu'à sa tombe est appelée également al-janaz ou al-jinaz. D'accord? Donc en fait, ce terme-là renvoie à l'une de ces deux choses. Et pour quelle raison le cheikh mentionne le livre justement de al-janaza juste après le livre de la salat? Parce qu'il dit que la chose la plus importante que l'on doit faire pour le mort musulman, c'est quoi? C'est la prière. D'accord? La chose la plus importante que l'on fait pour le mort, c'est la prière. C'est pour ça que il a cité juste après le chapitre de la prière le chapitre de al-janaza, pour qu'il y ait un lien quand même entre ces deux chapitres. D'accord, les frères? Certains ulama ont différencié entre jinaza et janaza. Ils disent al-janaza, c'est le meyyit. Parce que le fath, la fatha, on la met min fawq. Donc ça renvoie plus au mort. Alors que le jinaza, le kasr, c'est en dessous, donc c'est plus al-na'sh. Ladi alayhi meyyit. Allahu a'lam. Taïb? Na'am. Wa qala al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam: laqinu mawtakum la ilaha illallah. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر بعض أشياء تسن عند حضور الموت، عند احتضار الشخص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. يقول الشيخ: أخرجه مسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة. وموتاكم جمع ميت، نعم جمع ميت، موتا والمراد من حضره الموت نعم لقنوا موتاكم يعني المراد بالموتى هنا المحتضرون المحتضرون أو من حضرهم الموت فيسن لمن شهد محتضرا أن يلقنه الشهادة بالرفق يلقنه الشهادة برفق فيقول عنده لا إله إلا الله لا يقول قل يعني قل لا إله إلا الله ستموت لا تقول لا إله إلا الله تتكلم معه تكلمه تقول لا إله إلا الله هكذا ما شاء الله يعني سيعيد بعدك حتى يقولها تقول لا إله إلا الله حتى يقولها قبل الموت فإن لم يقولها فإنه يقول له قل نعم إن لم يقولها نعم هناك تقول قل لا إله إلا الله فإن تكلم بعدها أي قال لا إله إلا الله ثم تكلم بعد قوله بلا إله إلا الله فأعادها حتى تكون آخر كلامه نعم ليحصل على الفضل الوارد في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أخرجه أبو داود وقال ابن حجر في تلخيص أعله ابن القطان بصالح ابن أبي عريب أو عريب وأنه لا يعرف ويعقب بأنه روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات طيب Donc il dit ici, le Cheikh, d'abord l'auteur, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites dire à vos morts, la ilaha illallah. Le hadith rapporté par Muslim, par Abi Sa'id al-Khudri, yani, et Abi Huraira. Donc mauta, comme le terme mauta, comme vos morts, donc déjà mauta, c'est le pluriel de mayyit. Mayyit, c'est le mufrad, pluriel mauta. Et ce qui est voulu ici par les morts, bien sûr, c'est pas les morts une fois qu'ils sont morts. Là, Yannick, tu peux plus leur faire dire quoi que ce soit. Mais c'est au moment de l'agonie, le mourant. Le mourant, celui qui est en train de mourir, eh bien, il est recommandé de lui faire dire La ilaha illallah. D'accord ? Donc, ce qui est voulu par Al-Mouta ici, c'est Men hadarahu al-Mou, celui yani, qui s'apprête à mourir, le mourant. C'est pour ça qu'on l'appelle également Al-Muhtadar. Al-Muhtadar. Celui que la mort yani, est en train de visiter, entre guillemets. D'accord ? Donc, il est légiféré, ou même recommandé, pour celui qui, justement, témoigne et qui est proche de quelqu'un qui est en train de mourir, eh bien, de lui faire dire l'attestation de foi avec, bien sûr, avec douceur. Sans le brusquer, sans quoi que ce soit, sans lui faire peur. Au contraire, on doit lui faire espérer de la rahma d'Allah, tabarak wa ta'ala. C'est un moment où on doit vraiment lui rappeler la rahma d'Allah, jalla wa ala, la clémence d'Allah, le pardon d'Allah, tabarak wa ta'ala. Pour qu'il parte avec une bonne pensée, une bonne opinion de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc, il est recommandé de lui faire dire La ilaha illallah. Tout d'abord, tu dois lui dire juste La ilaha illallah, sans lui dire Qul di. D'accord ? Tu ne lui dis pas di, tu ne lui ordonnes pas de dire cette parole-là, mais tu dis à côté de lui, tu prononces La ilaha illallah, Inch'Allah, il répétera après toi. D'accord ? Jusqu'à ce qu'il le dise. Par contre, si malgré ça il ne dit pas la ilaha illallah, là tu lui dis ya akhi barakallahu fi qul la ilaha illallah yani avec douceur et tendresse et une fois qu'il est dit alhamdulillah mais si après ça il prononce d'autres paroles. Si après ça, yani, hein, il parle avec toi ou d'autres personnes, ou même tout seul, et qu'il prononce d'autres paroles, dans ce cas-là, yani, tu dois refaire cette chose-là afin qu'il termine sa vie avec cette parole-là. D'accord ? Il faut qu'il comprenne qu'il doit yani, finir, ou qu'il doit avoir pour dernière parole La ilaha illallah, afin qu'il puisse profiter de cette récompense mentionnée par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a dit celui qui a pour dernière parole La ilaha illallah entrera au paradis. Donc le hadith rapporté par Abu Daoud. Il dit Ibn Hajar rahimahullah ta'ala que Ibn al-Qattan a cité un défaut. Je ne vais pas allumer ce problème. Citer un défaut se trouvant dans un des rapporteurs du hadith qui est Saleh ibn Abi Urayb et qui n'est pas connu. C'est un rapporteur qui n'est pas connu. Puis à la fin, il a malgré ça yani, dit que le groupe des muhaddithoun ont rapporté de lui. Alhamdoulilah, il yani, y a beaucoup de rapporteurs du hadith et de savants du hadith ont rapporté de ce rapporteur-là et donc Ibn Hibban notamment Ibn Hibban ta'ala, a dit qu'il faisait partie des as-siqat des gens yani, que, dont on peut prendre le hadith donc le hadith alhamdoulilah il est acceptable ثم يقول نعم وقال اقرأوا على موتاكم ياسين نعم هذا مشهور يعني عند العوام اقرأوا على موتاكم ياسين رواه النسائي وأبو داود هذا رأي لشيخ السعدي رأى أن هذا السنة طيب لكن الحديث يعني فيه أقوال أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى من حديث معقل ابن يسار وقال ابن حجر في التلخيص قال دارقطني هذا حديث ضعيف ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث لا يصح في هذا الباب أي حديث أي قراءة سورة ياسين يعني حديث واحد وعلى فرض صحته على فرض صحته فإن معناه كالذي قبله أي من حضره الموت لكي يسمع ويتعظ ويتذكر بما فيها من الذكرى نعم كان مرادك هذا أي أن يذكر الميت بأحوال الآخرة وهكذا وتقرأه وتقرأ يعني عليه سورة ياسين حتى يعني حتى بقصد الرقية مثلا بقصد الرقية تقرأ القرآن تقرأ ياسين تقرأ يعني سورة البقرة تقرأ الحمد لله هذا شيء طيب من الرجل حي الحمد لله لكن قراءة ياسين بعد موته هذا لا هذا بدعة لا شك كما فعل أهل جزر القمر هكذا نعم يعني يقرؤون سورة ياسين بعد موته أو عند دفنه وعند دفنه هكذا في البيت كذلك أي نعم هذا لا لا شك لكن قبل موته قال الشيخ لكي يسمع ويتعظ ويتذكر بما فيها من الذكرى ويبشر بما فيها من البشارة فيفرح ويتعلق قلبه بالله تعالى هذا شيء يعني طيب والحمد لله في جل الشيخ il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم selon un hadith rapporté par An-Nasa'i et Abu Daoud récitez sur vos morts la sourate Yassin la sourate Yassin d'accord donc le hadith rapporté par Ma'qil ibn Yasar Mais il dit, Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, que Ad-Darqutni a dit que le hadith, il est faible. Il est faible par rapport à la chaîne de transmission. Et son texte, il est également, il est étranger, il est inconnu. D'accord ? Il n'est pas authentique, il y en a dans ce chapitre-là, concernant la récitation de surat Yasin sur la personne qui est en train de mourir, le mourant. Eh bien, il n'y a pas de hadith authentique en vérité. Pas un seul. Hein? Non, là, on parle d'abord du mourant, du muhtada. Non. Iqra'u ala mawtakum yasin. Donc, le shir, lui, ne parle que de muhtada, il ne parle pas de, du mort. Non. C'est pour ça qu'il dit ici, mais si on considère, malgré tout, que le hadith, il est authentique, d'accord ? On admet que le hadith est authentique. Eh bien, le sens du hadith serait comme ce qui est, ce qu'on a mentionné juste auparavant par rapport à la parole « La ilaha illallah ». C'est-à-dire, il est permis de réciter surat Yasin à celui qui est en train de mourir afin qu'il écoute la parole d'Allah et qu'il en tire des leçons à ce moment-là et qu'il se rappelle des rappels, des choses qu'il y a dans la surat Yasin et qu'il se réjouisse. Hein, qu'ils se réjouissent de ce qu'il attend après la mort, et de ce qui attend les croyants après la mort, parmi les choses du paradis, etc., etc., qui se trouve dans la sourate Yassine. Donc si toi tu récites la sourate Yassine dans cette intention-là, afin qu'il se réjouisse et qu'il s'apaise au moment de mourir, l'inverse. Hein, tu le récites, et pas que la sourate Yassine en particulier, tous les versets dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala, il parle de la récompense des gens du paradis et de sa rahma, de son pardon, etc. Par contre, comme on a dit, après la mort, là, après la mort, comme font certains, une fois que la personne est morte, ou alors pendant son enterrement, ils vont réciter en plus tous ensemble la voix haute, surat Yasin, hada laysa min as-sunna. Non. Lui, il va pas porter le fardeau des autres, les péchés des autres. Sauf si, bien sûr, il leur a demandé. Il leur a dit, quand je meurs, récitez sur la théâtre, là, oui. Là, il peut porter le péché. Hein? C'est la personne avant de mourir, elle dit, quand vous m'enterrez, vous restez sur la Yassine, là vous pleurez, vous criez, hein, la personne va prendre le péché, mais sinon, non. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, afwan, qabla dhalika, wa tajhizul mayyit bi ghaslihi wa takfinihi wa salati alayhi wa hamlihi wa dafnihi فرض كفاية فرض كفاية فأجمع العلماء على أن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية فرض كفاية أي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين سقط عن الآخرين وإن ترك الكل أثمه أثم كله. أما غسله وتكفينه فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خر رجل من بعيره فوقص فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسدر وكفنوه من ثوبي أو في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا لأن هذا الرجل كان محرما في هذا الوقت أخرجه البخاري ومسلم وأما الصلاة عليه فلقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم أي أنتم أنا لا أصلي أنتم صلوا على صاحبكم أخرجه البخاري ومسلم فأمر بالصلاة عليه ولم يصل عليه هو فيدل على أنه فرض كفاية وأما حمله ودفنه فلقوله تعالى ثم أماته فأقبره ولقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة الحديث. Donc, il dit la préparation du mort. Donc, rentre dans ce terme-là, tajhiz al-mayyit, la préparation du mort, son lavage, son linceul, le fait de le recouvrir du linceul, la prière sur lui, le fait de le porter et de l'enterrer. Donc, tout ça rentre dans le terme tajhiz al-mayyit. Le lavage, le linceul, la prière, le portage et l'enterrement. Donc, et c'est ce qu'on appelle ces choses-là furudu kifaya. D'accord ? C'est des obligations collectives. D'accord ? Obligations collectives. Donc, furudu kifaya, c'est quoi ? C'est une obligation que lorsque un groupe parmi les musulmans s'en charge, eh bien, cela décharge les autres. D'accord ? Mais si aucun ne le fait, si personne ne le fait, dans ce cas-là, ils seront tous dans le péché. Si personne ne se charge du lavage, du portage, du linceul, de l'enterrement d'un musulman, eh bien, ils seront tous dans le péché. Et un même Allah Ta'ala. Devant Allah Ta'ala, ils auront des comptes à rendre. D'accord ? Donc les ulama sont unanimes pour dire que le lavage du mort, le linceul, la prière, le portage, l'enterrement sont des obligations collectives. Quant aux preuves, donc la preuve concernant le lavage et le linceul, le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui a dit un jour un homme est tombé de son chameau et il s'est cassé le cou et il est mort. Donc il est mal retombé, d'accord ? Son cou s'est rompu et il est mort sur le cou. Il faut savoir que cet homme-là était en état de ihram. D'accord ? En état d'ihram. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lavez-le avec de l'eau et du cidre et des feuilles de jujubier. De l'eau mélangée avec des feuilles de jujubier. Na'am. Entourez-le ou enveloppez-le d'un linceul, ou plutôt, afin, enveloppez-le dans ses deux habits, c'est-à-dire l'izar ou l'rida. L'rida ou l'izar. Donc le muhrim, il a en haut l'rida et en bas l'izar, c'est tout. Il n'y a rien d'autre que ces vêtements-là. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a ordonné de le laisser comme ça en gros, de le laisser avec son izar et son rida. D'accord ? Et ne lui couvrez pas la tête. Et à la base, comme vous savez, le muhrim n'a pas le droit de se couvrir la tête. Quand tu es en état d'ihram, tu ne peux pas mettre ni de shashia, ni rien du tout sur la tête. Donc là, il leur a dit, à ce mort-là qui est mort en état d'ihram, ne lui couvrez pas la tête. D'accord ? Car certes, Allah tabaraka wa ta'ala le ressuscitera le jour de la résurrection en train de faire talbiyah. Comme il est mort, Allah Jalla wa Ala le ressuscitera. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La preuve concernant la prière sur lui, concernant le fait que la prière est une obligation collective et pas individuelle, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, priez sur votre compagnon. Le hadith muttafaqan alayh. Donc le prophète, il a ordonné que ses compagnons prient sur lui, alors que lui n'avait pas l'intention de prier sur lui. D'accord ? Cela prouve bien que ce n'est pas une obligation individuelle, car sinon il aurait prié sur lui. D'accord ? Taïe. La preuve concernant le fait de porter le mort et de l'enterrer, tout d'abord la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans surat Abasa, dans le sens rapproché. Ensuite, il l'a fait mourir et il l'a enterré. Et également, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hâtez-vous d'enterrer le mort. Hâtez-vous, yani, de préparer le mort, d'enterrer le mort, etc. Asri'u bil jinaza, le hadith. Non. طيب كل هذا يعني يعلمنا أن أولا عيادة المريض من آكد الأعمال، عيادة المريض وخاصة المحتضر من آكد الأعمال، وتتأكد في حق القريب، حق القريب ومن له حق خاص وحق عام. لكن ينبغي أن لا يطيل الجلوس عنده، هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يطيل الجلوس عند المريض، وأن لا يجره بكثرة الأسئلة كما فعل البعض. طيب، بل يراعي حاله، وإذا احتضر سنة أولا تعاهد بل حلقه بالماء مثلا وتلقينه الشهادة كما قلنا، وإذا مات سنة تغميضه، وسنة كذلك تليينه مفاصله، تليين مفاصله، ومن ذلك المبادرة في تجهيزه بالتغسيل والتكفين وماذا الحمل والدفن، وهذه كلها فروض كفاية كما ذكرنا. Donc il faut savoir que le fait de visiter le malade, et en particulier le mourant, fait partie des œuvres les plus demandées, les plus confirmées dans la sunna. Rien. Et cela est encore plus demandé en faveur de la personne qui est proche de toi, un proche parent, quelqu'un de proche, ou celui qui a un droit sur toi. D'accord ? Mais il faut savoir qu'il ne faut pas, notamment parmi les choses qu'il faut éviter de faire, c'est de prolonger la visite. Il ne faut pas trop rester longtemps quand tu visites un malade. Il ne faut pas trop s'éterniser. D'accord ? Il ne faut pas non plus le perturber ou le gêner en lui posant trop de questions. Des fois, il se peut que la personne visite un malade et elle commence à discuter, à bavarder de tout et de rien. Et ça devient lourd pour le malade. Il n'ose pas le dire. Mais c'est dur pour lui, c'est difficile. D'accord ? Et il n'ose pas le dire. Donc il faut éviter de trop parler, de trop rester longtemps. Au pire, des fois, les personnes, ils y vont à plusieurs et ils font comme s'ils étaient dans la rue ou là. Voilà, il y a un barré. Et une fois que la personne, tu vois qu'elle est en train de mourir, ça y est, elle est vraiment en train d'agonir. Là, il est recommandé, comme on a dit, de lui faire dire « La ilaha illallah ». D'accord ? De la façon dont on a dit. Et également, il est bon de temps en temps de lui rafraîchir un peu et amener la gorge en lui donnant à boire ou autre. Et une fois que ça y est, il est mort, il est recommandé de lui fermer les yeux. D'accord ? En général, donc ils ont les yeux ouverts. Donc tu leur fermes les yeux. Ensuite, tu détends un peu leurs membres, leurs articulations. D'accord ? Pour faciliter ensuite le lavage, le transport, etc. etc. Donc pour ça, tu plies un peu leurs bras, les jambes. D'accord, tu soulèves leurs cuisses comme ça, tu allèges et tu assouplis leurs articulations. Ça, c'est recommandé également. Et parmi les choses recommandées, tu dois te hâter, te dépêcher, avec l'accord de la famille, des proches, etc., de le préparer. Donc, comme on a dit, rendre la préparation, le lavage, le linceul, le portage, l'enterrement, etc. La prière sainte. Et toutes ces choses-là rentrent dans les obligations collectives. Furud kifaya. D'accord ? D'ailleurs. Yaqul wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam asri'u bil jinazati. Asri'u bil jinazati. Fa in taku saliha fa khayrun tuqaddimunaha ilayhi. وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وقوله أسرعوا بالجنازة، للعلماء في المراد بالإسراع هنا قولان، ما معنى الإسراع؟ الأول أنه الإسراع بالسير بها إلى المقبرة، الإسراع بالسير بها إلى المقبرة، والثاني أنه الإسراع بتجهيزها، الإسراع بتجهيزها. ويؤيد الثاني حديث الحسين ابن وحوح أن طلحة ابن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، يعني سيموت بعد قليل، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. أخرجه أبو داود. وقال في عون المعبود في إسناده عورة ابن السعيد الأنصاري عن أبي وهو أبوه مجهولان. وقال ابن حجر في الفتح يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت كسقوطه وكذا، أو مشقة على الحامل أو المشيع لئلا ينافي المقصود من النظافة وإدخال المشقة على المسلم. قال القرطبي مقصود الحديث ألا يتباطأ بالميت عن الدفن، لأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال. وقوله بالجنازة أي بحملها إلى قبرها، بحملها إلى قبرها، هذا هو القول الأول. وقيل المعنى بتجهيزها، هذا هو القول الثاني، فهو أعم من الأول. قال القرطبي والأول أظهر، وقال النووي الثاني باطل مردود لقوله في الحديث تضعونه عن رقابكم. الله أعلم. دونك دي النبي صلى الله عليه وسلم ديبيشيفو de biljinaza, dépêchez-vous biljinaza par rapport à al-janaza. On verra qu'est-ce qu'ils disent les ulama sur ça. Donc si al-janaza, c'est-à-dire le mort, était quelqu'un de pieux, de vertueux, eh bien dans ce cas-là, en vous dépêchant, vous l'amènerez plus vite vers le bien qu'il attend. Et s'il n'était pas pieux ou vertueux, eh bien, cela vous enlèvera un fardeau de votre riqab, de votre cou. Yani. Cela vous déchargera d'un fardeau. D'accord ? Non. Non ? Donc le hadith, muttafaqun alayh, selon le hadith Abi Hurayra. Donc lorsqu'il dit « Asri'u bil janaza » ou « bil janaza », les ulama, ils ont deux avis là-dessus. Par rapport à, ici, dans quoi doit-on se dépêcher? Exactement, dans quoi on doit se dépêcher? Le premier avis, il dit, le fait de se dépêcher lorsque on le transporte. Lorsque tu transportes le mort vers la tombe, hein, eh bien, c'est là que tu dois te dépêcher. Ou alors, le deuxième avis, tu dois te dépêcher dans sa préparation. Tu dois te hâter à le laver, à lui mettre le linceul, à prier sur lui et à l'enterrer. Ça, c'est le deuxième avis. Donc on voit que le deuxième avis, il est plus vaste, il est plus général que le premier. Le premier, il est plus restreint. D'accord ? Alors que dans le deuxième, rentre également, bien sûr, le transport, mais aussi le lavage, etc. Donc il y a un hadith qui appuie un peu le deuxième avis, mais le hadith dans sa chaîne de transmission, il y a deux personnes qui sont majhoul, qui sont inconnues, donc on ne sait pas si on peut prendre ou pas le hadith de ces deux personnes. Al-Muhammi dit le hadith c'est celui de Al-Hussein ibn Wahwah qui a dit que Talha ibn al-Bara, radiallahu anhu, est tombé gravement malade. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc l'a visité. Et il a dit, lorsqu'il l'a vu, il a dit, yani, je vois que Talha, vraiment, il ne va pas tarder à mourir, ça y est. Il est aux portes de la mort et il ne va pas tarder à mourir. Fa'adhinouni bihi. Donc lorsqu'il sera mort, prévenez-moi. D'accord ? Dans le sens, lorsqu'il sera mort, prévenez-moi. Adhinouni bihi. Wa'adjilou, et dépêchez-vous. Car il ne faut pas que le corps d'un musulman reste parmi sa famille. Que le corps du musulman reste comme ça au sein de sa famille, dans la maison, etc. Et il faut se dépêcher à le laver, l'enterrer, etc. Mais dans sa chaîne, comme on a dit, il y a deux personnes qui sont Urwa ibn Sa'id al-Ansari ainsi que son père, qui sont deux personnes, on ne sait pas si on peut prendre le hadith d'eux. Ils sont majhoul. D'accord ? Majhoul al-Hal. Pas majhoul al-Ayn. On connaît leur nom. On connaît leur nom, mais on ne connaît pas leur état. Est-ce qu'ils sont des gens droits dans la religion, hein? Est-ce que c'est des gens qui sont éloignés des grands péchés? Est-ce que c'est des gens qui mentent, qui ne mentent pas? Allah, on ne sait pas. Donc on ne peut pas apprendre le hadith. Il dit Ibn Hajar, dans Fath al-Bari, qu'il lui recommandait de se dépêcher, mais il ne faut pas non plus que cela amène à... à ce que le mort soit endommagé, à ce que son corps soit endommagé, par exemple. Il ne faut pas se dépêcher pendant le transport jusqu'à ce que tu fasses tomber le mort ou en voiture, tu fais un accident en voiture, des choses comme ça. Non. D'accord ? Il ne faut pas atteindre ce degré-là, bien sûr. Ou il ne faut pas non plus que le transporteur ressente une gêne ou une difficulté. D'accord ? Ou celui qui suit le cortège également. Car cela contredirait et s'opposerait l'objectif déjà qui est la propreté, nadafa. Et s'opposerait également au fait de ne pas gêner l'hamil, celui qui est en train de porter, de transporter le corps. Donc il ne faut pas atteindre ce niveau-là. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, ce qui est voulu du hadith, c'est lorsque tu transportes le mort, de ne pas y aller trop doucement. Hein, de ne pas aller trop doucement comme ils font. On le voit, les kuffar, lorsque c'est une personne, hein, une star, une personne célèbre, là, quelqu'un qui était très connu, pendant le cortège, qu'est-ce qu'ils font? Ils y vont très doucement. Tu vois ce qu'ils portent, hein, pas à pas, etc., etc. D'accord? Eh bien, il ne faut pas faire ça en vérité. C'est ça qui est voulu, dit le Qurtubi. Car cela amène à quoi? At-tabahi wa ikhtiyad. Cela amène à de l'arrogance. Hein? La fierté, l'arrogance, la vantardise, etc. Alors que le musulman, il reste tout le temps humble, même lors de l'enterre. Même s'il enterre un roi, hein? Il reste humble. L'enterrement doit se faire de la manière des plus humbles. D'accord? Et on le voit. Hein? Vous pouvez voir la tombe du roi précédent. Saoudi, c'est une tombe très très simple. Tu la différencies pas des autres tellement. On parle même pas des tombes de Sahaba. Hein, tombe de Sahaba. Si on te le dit pas, tu sais pas qui est enterré où. D'accord? Non. Donc ce hadith en vérité indique le fait de faire vite pour ne pas justement tomber dans ce piège là. Allahu a'lam. Il jenaza. D'accord? Non. Donc le premier avis, le fait de se dépêcher pendant le transport, et le deuxième avis, se dépêcher dans la préparation du mort. Donc on a dit que le deuxième était plus large, hein, et plus général que le premier. L'imam al-Qurtubi dit que le premier, hein, il est adhar, donc il est plus évident que le deuxième. D'accord? Le premier avis, il est plus évident. Et l'imam al-Nawawi, il dit carrément que le deuxième avis, il est batil, il est faux. Le deuxième avis, il est faux, parce qu'à la fin du hadith, il dit tada'unahu an riqabikum, afin que vous déchargiez yani de cette tâche-là, de cette charge-là, vous déchargiez vos coûts. D'accord ? Donc là, il y a un rapport avec le transport. Il y a un rapport avec le transport. Allahu a'lam. Oui. C'est clair, les frères ? وقال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه حتى يقضى عنه رواه أحمد والترمذي. يقول الشيخ أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة وقال الترمذي حديث حسن وهذا الحديث يفيد الترهيب من الدين وأنه ينبغي على وصي الميت أو الورثة الإسراع بقضاء دينه ومعنى قوله نفس المؤمن أي روحه أي روح المؤمن معلقة بدينه وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بميت سأل عن دينه إذا أتي بميت سأل عن ماذا؟ دينه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبه وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح أو الفتوح الفتوحات يعني قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. هذا حديث آخر. فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته. أخرجه البخاري ومسلم. وسبب هذا الترهيب من الدين أنه من حقوق الخلق التي لا بد من أدائها لأصحابها أو يعفون عنها. في جيل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الحسن l'âme du croyant elle est attachée à ses dettes elle est attachée à ses dettes jusqu'à ce qu'elle soit remboursée. Rapporté par Ahmed Tirmidhi et aussi Ibn Majah selon Abi Huraira. Il dit Tirmidhi que c'est un hadith qui est hasan, qui est bon. D'accord? Donc ce hadith, premièrement, nous incite à nous préserver un maximum des dettes. On voit yani, le péril et le danger d'être endetté. Car tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Et tu ne sais pas lorsque tu vas mourir, tu ne sais pas si tu vas laisser de quoi rembourser ces dettes. Donc il faut s'en préserver un maximum. Et également, on tire du hadith qu'il faut que le tuteur du mort ou ses héritiers se dépêche de rembourser ses dettes. Hein, afin de délivrer son âme, justement. Afin de délivrer son âme de ses dettes. D'ailleurs, il a été affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui faisait part de la mort d'un tel ou lorsqu'on lui a amené un mort, eh bien il demandait sur est-ce qu'il avait des dettes ou pas. Est-ce qu'il avait des dettes. D'accord? Comme l'a rapporté Abu Huraira, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour on lui a amené un homme qui était mort et qui avait des dettes. Cet homme-là, il avait des dettes. Il a demandé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il laissé pour ses dettes de quoi les rembourser? Est-ce qu'il a laissé derrière lui de quoi les rembourser? Lorsqu'on lui disait oui, il a laissé, alhamdoulilah, de quoi rembourser ses dettes, il priait sur lui. Mais dans le cas contraire, il disait, priez sur votre compagnon. Ça veut dire que lui ne priait pas. Hein? À partir du moment où la personne avait des dettes mais qu'elle n'avait pas de quoi les rembourser, eh bien il ne priait pas sur elle et disait aux autres de prier sur elle. Donc cela montre, comme on a dit tout à l'heure, que ce n'est pas une obligation individuelle, fard-a-in, mais fard-kifaya. Mais il faut savoir que lorsque Allah tabarak wa ta'ala a permis aux musulmans d'agrandir leur territoire et leur richesse, il a ouvert les portes de la richesse, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis prioritaire par rapport aux croyants sur leur propre personne. D'accord ? Donc cette parole-là, elle veut dire deux choses. Premièrement, elle veut dire que le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam passe avant le droit de leur propre personne. Naam. Le droit du prophète passe avant le droit de nous-mêmes. D'accord ? Concernant l'obéissance, l'amour, etc., etc. Mais cela veut aussi dire que la compassion qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les musulmans était plus grande que la compassion qu'ils avaient pour eux-mêmes. Hein? La compassion, la miséricorde que le prophète ressentait pour les croyants était plus grande que la compassion qu'ils avaient pour leur propre personne. Et c'est pour ça qu'il dit juste après, donc celui qui est mort et qui avait des dettes, eh bien c'est à moi de les rembourser. C'est à moi de les rembourser. D'accord ? Et celui qui a laissé des biens, eh bien ce bien-là, il appartient à ses héritiers. Ce bien-là appartient à ses héritiers. D'ailleurs, et bien sûr aujourd'hui, hein, il n'est plus là. Donc, à moins que certains pays musulmans ont mis en place un système de rembourser les dettes des morts, Allah a'lam, je ne sais pas comment ça se passe, même à Saoudia, je ne sais pas. Eh bien, les héritiers doivent tout d'abord, avant toute chose, avant même de partager l'héritage, avant même de remplir la wasiya, le testament qu'il a laissé, le legs testamentaire, ils doivent rembourser ses dettes. Ils doivent prendre les biens du mort et rembourser d'abord toutes ses dettes. Une fois que c'est fait, ils pourront respecter son testament et faire le partage de l'héritage. Donc le hadith il est chez le Bukhari et le Muslim. Naam. Et pour quelle raison donc on doit vraiment se préserver et s'éloigner de l'endettement? Eh bien parce que cela fait partie des droits des créatures. Des droits des créatures qu'il est obligatoire de respecter, même pour le mort. Même celui qui est mort, eh bien, ceux qui restent après lui doivent respecter les droits des créatures sur ce mort-là, c'est-à-dire les dettes. Ou alors, bien sûr, ils peuvent aussi dire c'est bon, c'est pas grave, j'efface les dettes. D'accord ? Donc, celui à qui on devait de l'argent, il dit, c'est bon, là je laisse tomber, vous me devez rien, de la khlas, d'accord. Mais on se doit, dans tous les cas, de voir avec lui. De voir avec lui. S'il veut son argent, on doit lui rendre son argent. D'accord. غسل الميت أولا غسل أو تغسيل الميت كغسل الحي كغسل الحي طيب فيستر الغاسل ما بين سرته وركبتيه يستر أولا ما بين سرته وركبتيه ويغسله من تحت السترة من تحت السترة طيب ويجعل على يديه قفازين عند غسل العورة عند غسل العورة يجعل على يديه قفازين ويجعل في الغسلات الثلاث الأولى سدرا هذا يعني من السنة. يجعل في الصلاه الثلاث الاولى سدرا، ويجعل في الاخيره ماذا؟ كافورا. وقال الشيخ في شرعه لذات المستقنع الشيخ البليهي رحمه الله تعالى: يشترط لصحه تغسيل الميت شروط سبعه. هذا مهم. يشترط لصحة تغسيل الميت شروط سبع. الشرط الأول النية. النية. الثاني التسمية. التسمية. وتسقط سهوا كما في الوضوء، كما ذكرنا وكما ذكر شيخ ابن باز رحمه الله تعالى. الثالث إزالة ما بالميت من نجاسة. هذا شرط. إزالة ما بالميت من نجاسة إن كانت. الرابع أن يكون الماء طهورا. الخامس أن يكون الماء مباحا. السادس أن يكون الغاسل مسلما. فالغاسل الكافر لا يجوز له يغسل الميت، الغاسل مسلم. والسابع أن يكون الغاسل عاقلا مميزا، عاقلا مميزا. إذن الطفل مثلا الذي بلغ كم 7 سنوات مثلا، إن كان عاقلا إن كان مميزا فله أن يغسل رجلا، أن يغسل مثلا أخاه أو أباه. نعم. طيب donc on finit avec le sujet de le lavage du mort. Et je conseille à tous les frères, pour ceux qui peuvent, d'apprendre يعني comment laver les morts. Comment laver les morts pour éviter que ce soit des gens, peut-être qu'il faut même pas la prière des fois. Allah Alam, on ne sait pas. Hein? C'est pas, même si c'est une agence musulmane, tu connais pas les personnes qui travaillent dedans. Est-ce qu'elles prient, est-ce qu'elles prient pas? Non, trop bien. Vous voyez? Donc il faut que, pour ceux qui peuvent, ils apprennent comment laver les morts. Et cela, en plus, c'est un rappel de la mort et de l'au-delà. Donc, il faut savoir que le lavage du mort est similaire au lavage du vivant, en vérité. D'accord? Vous verrez pour ceux qui vont apprendre. Et la personne qui lave le mort, elle commence par déjà couvrir le mort du nombril au genou. D'accord? Du nombril au genou. Puis, elle commence par nettoyer, ou plutôt elle nettoie avec un tissu par exemple. D'accord? Une sutra. Il y a un tissu qui va donc se trouver entre sa main et le corps du défunt. Et lorsqu'elle lave les parties intimes, la aura, elle met des gants. Elle met des gants. Et également, il est recommandé, il est dans la sunna, de mettre ce qu'on appelle, de mélanger l'eau avec des feuilles de jujubier lors des premiers lavages, les 3 premiers lavages. D'accord ? Faut savoir que si tu fais qu'un seul lavage et que un lavage suffit, alhamdoulilah, le lavage il est bon. Hein? D'accord? En tous les cas, les premiers lavages, c'est bien de mettre des feuilles de jujubier avec. Et quant au dernier lavage, il est bien aussi de mettre du camphre. D'accord? Du camphre, il y a afin de. Par rapport aux odeurs. Alhamdoulilah. Cheikh Al-Balihi, Salih Al-Balihi, rahimahullah ta'ala, dans son charh de Zad al-Mustaqna, il a dit que la validité du lavage du mort repose sur sept conditions qu'il faut connaître par cœur, inshallah ta'ala. Tout d'abord, la première condition, niyya, l'intention. Deuxième condition, التسمية وتسقط سهوا. Le fait de dire Bismillah, mais si la personne oublie par inattention, eh bien, yani, cette condition-là yani, n'est plus. Son lavage est valide. Troisième, إزالتما بالميت من نجاسة إن كانت. Le fait d'enlever toute forme d'impureté du mort. Enlever toutes les impuretés qu'il pourrait y avoir sur le corps du mort, s'il y en a, bien sûr. Quatrièmement, un yakun al-ma tahour. Bien sûr, il faut que ce soit fait avec une eau purifiante. D'accord ? Une eau purifiante, purificatrice. Quatrièmement, yakun al-ma mubah. Il faut que cette eau-là soit licite. Ce n'est pas une eau qui a été volée, par exemple, ou extorquée de force. D'accord. Sadis, un yakun al-ghasil musliman. Il faut que la personne qui lave le mort soit un musulman. D'accord. Donc il faut vraiment regarder qui est-ce qui lave le mort. Est-ce que c'est un musulman ou pas déjà. D'accord. Et même si c'est un musulman, est-ce qu'il prie, est-ce qu'il connaît vraiment yani comment laver les morts, etc. C'est important. Donc, que ce soit une personne, bien sûr, douée de raison. Et moumayyiz, qui soit au moins moumayyiz. C'est-à-dire que, même s'il n'est pas pubère, il se peut qu'un enfant, par exemple, 8 ans, 9 ans, 10 ans, il n'est pas pubère, mais s'il connaît la façon de laver les morts et qu'il fait partie des enfants moumayyizin, c'est-à-dire qui sont intelligents, hein, qui comprennent ce qui est le mal, ce qui est le bien, etc. Il peut laver son frère, il peut laver son père, il peut laver un homme. D'accord ? Car il faut savoir aussi que les femmes lavent les femmes, les hommes lavent les hommes. D'accord ? Même la fille ne peut pas laver son père. Ni la fille qui est pubère ne peut pas laver son père. Et le père ne peut pas laver sa fille pubère. Sauf si, bien sûr, elle n'est pas encore formée, etc. Il peut la laver. Mais si elle est pubère, etc., il ne peut plus la laver. C'est fini. Donc, ça doit être une femme qui devra laver la femme. Et l'homme qui lave l'homme. Exception faite pour qui ? Non, pour les époux. Donc, le mari peut laver son épouse et l'épouse peut laver son époux. Dans ce cas-là, c'est permis. Mais hormis cela, là. D'accord ? فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إخوانه وسلم تسليما.